Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu 102.2. Donc aujourd'hui, une émission consacrée à la question de l'eau au bien commun, donc avec le collectif Au bien commun. Donc bonsoir.
Bonsoir.
Donc, mais avant de présenter nos invités et de rentrer dans le vif du sujet, on voulait se réjouir de la relaxe des deux militants qui sont passés en procès le 2 septembre à Lyon, donc pour le décrochage des tableaux des portraits du président dans le cadre de la lutte et de la sensibilisation sur le dérèglement climatique et de la non-action du gouvernement. On avait reçu Pierre, une des deux personnes qui était passée en procès dans notre dernière émission il y a 15 jours. Et donc, le juge a prononcé la relaxe. On sait qu'ailleurs, par exemple, dans la région, à Bourg-en-Bresse, les personnes avaient reçu des amendes de 250-500 €.
Voilà.
Mais là, donc, un juge qui a prononcé la relaxe sur le principe qu'effectivement, c'était une action légitime, que le dérèglement climatique était un vrai enjeu et qu'il y avait des modes d'action citoyens qui permettaient de se substituer au débat et au dialogue qui a du mal à se faire avec un gouvernement inactif sur cette question particulièrement urgente.
On attend la suite
puisqu'il y a eu un appel.
Mais c'est une première victoire à saluer et nous attendons aussi avec impatience, le procès du 7 octobre les antipubes.
Antipubes, oui.
Voilà.
Et donc on fait le suivi des gens qu'on a rencontrés et des actions qu'on suit et pour lesquelles on est aussi souvent dans la lutte.
Oui. Et auxquelles nous nous associons. Hein. Par exemple, l'association ATTAC s'associe à toutes ces actions-là après les emports de chaises dans les BNP.
Où il y avait également eu des procès.
Où il y a eu des procès et deux relax aussi. Et c'est pourquoi nous avions souhaité le 2 septembre les mêmes relax pour nos amis de Lyon. Voilà. Oui.
Et donc nous recevons Roger et Josette, donc du collectif Au bien commun. Donc ce que l'on vous propose, c'est de commencer par présenter ce collectif, un petit peu d'où il vient, comment il s'est créé, qui le compose, quels sont ses principes et ses objectifs, ses modes d'action, est-ce qu'il s'inscrit dans un réseau. Et puis après, on en viendra à des actions concrètes que vous menez au quotidien ou des actions aussi d'actualité que vous allez nous présenter.
On peut peut-être dire qui on est personnellement, Josette, oui. Si tu veux bien.
Alors je suis association ATTAC. Principalement et depuis longtemps, depuis les 20 ans que nous allons fêter bientôt. Et c'est une association qui peut apporter beaucoup de connaissances et de réflexions et que nous essayons ensuite de transmettre et par la parole et par des actions visibles aussi et dans les manifestations également.
Voilà, donc Roger Chant. Moi, au sein du collectif, je représente la Fédération du Rhône de la Confédération nationale du logement, hein, qui, comme on sait, est une grande confédération, une vieille dame qui a plus de 100 ans et qui consacre essentiellement son activité à la défense des locataires et à la défense des consommateurs. Donc, à ce titre-là, bien évidemment, on est directement concerné par la problématique de l'eau. Hein, et on pense que les usagers ont plus que leur mot à dire dans cette question. Et moi, bon, je suis un des petits derniers, je crois, à avoir rejoint le collectif, pris par d'autres activités, un peu moins de 2 ans, quoi. Donc, sur l'historique, j'aurais peu de choses à dire. Josette, certainement plus que moi.
Oui, alors, ATTAC, au nom de la protection des services civils, des services publics, voilà, et civils en même temps. Donc, ATTAC s'est investi cette année, dans le collectif Au bien commun Rhône-Alpes, Aura, nous disons Auvergne-Rhône-Alpes, Aura. Mais le même genre de collectif a existé de 2012 à 2015. Et ces collectifs, chaque fois, regroupent des syndicats. Les syndicats viennent peu à peu cette fois-ci. L'autre fois, au moment des états généraux des services publics, c'est comme cela que s'appelait le collectif à l'époque, 2012-2015, il y avait, en effet, les syndicats avaient initié avec les partis, il y avait aussi des associations, des citoyens et des citoyennes. Et cette année, depuis l'an dernier, nous retrouvons des partis politiques et des mouvements, des associations surtout, des syndicats qui viennent peu à peu, et des citoyens et des citoyennes. Et ça, c'est important, puisque nous souhaitons qu'ils s'ajoutent à nous, qu'ils s'ajoutent en tant que personnes, et qu'ils apportent leurs forces et leurs opinions. Voilà.
Et c'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'on fait une émission sur cette question de l'eau. Ouais. Il y a déjà quelques années, on avait fait une émission aussi avec Au Bien Commun. Et il y a encore plus longtemps, avec un militant d'attaque, Jean-Luc Guinossier, qui était aussi à la SER, qui était à la SER, l'association des consommateurs d'eau du Rhône. Et oui, et vous voyez, un citoyen qui avait acquis une expertise extrêmement fine sur cette question, et qui était d'ailleurs même appelé par d'autres collectivités dans la France entière, des collectivités qui voulaient revenir à une régie publique de l'eau.
Exactement. Si on veut parler d'eau bien commun, on peut dire donc le collectif eau bien commun métropole, celui de
Lyon.
Voilà. Il y a d'autres collectifs, il y a plein dans le pays de Gers, dans l'Ain, dans différents endroits, et il y a une coordination donc régionale, EBC Aura, qui coordonne tout cela, et qui d'ailleurs, on en reparlera, et elle qui va réorganiser le grand village de l'eau, qui aura lieu au début février de 2020, et avec un ensemble d'organisations, avec des stands, avec des conférences, des débats, donc c'est quelque chose d'important.
Et là,
qui se passera,
on cherche encore.
On n'a pas encore. Bon, il y a deux ans, d'ailleurs, sous un déluge d'eau, il avait eu lieu aux Confluences, ce qui fait que ça avait... Malheureusement, la foule, c'est vrai qu'il pleuvait énormément, mais là on espère que de trouver un lieu au sec, à l'abri, et que l'information sera faite très très largement sur ce village de l'eau. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, comme disait Josette, effectivement, notre collectif, c'est la suite du collectif des États généraux des services publics, qui a quand même beaucoup agi et qui avait obtenu un certain nombre de résultats. Ça, je crois que c'est important de le dire. Mm-hmm. Moi, je commence et Josette complétera, puisqu'il avait obtenu qu'une structure spécifique soit créée au du Grand Lyon, alors qu'avant c'est Veolia. Depuis que Veolia a obtenu la délégation de services publics, on en reparlera bien sûr. C'est lui qui gère absolument tout dans une opacité totale. Donc cette mobilisation avait obtenu qu'une structure spécifique au du Grand Lyon soit créée avec du personnel affecté.
Et d'autre part que l'abonnement soit revu, que le montant de l'abonnement soit revu.
Mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'ancien contrat, tous les comptes étaient mélangés. Tout était mélangé, il était impossible de retrouver quoi que ce soit, et la puissance publique, d'ailleurs, ne se donnait pas les moyens, n'avait pas les moyens de contrôler ça.
D'où cette structure dédiée. Oui. Sachant qu'il y a quand même cette espèce d'ambiguïté ou de non-lisibilité, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas Veolia, mais en fait, il y a quand même Veolia derrière.
D'autre part, contrairement à la période précédente, il y avait un outil de l'état du réseau qui avait été mis en place, qui n'existait pas avant. Sur l'état du réseau, la collectivité publique et les citoyens par contre n'avaient absolument aucune information. Donc ça c'est important. Il y avait aussi des exigences de rendement du réseau qui ont été fixées. Il y a eu une légère amélioration, il y a encore beaucoup à faire. Dans le nouveau contrat de l'époque, il était bien noté que le réseau était vraiment vieillissant, et un renouvellement minimum de 0,7% était demandé. On est pour l'instant en dessous de ça.
En dessous de ça. Et pourtant, 0,7%, ce n'est pas énorme.
Et c'était pourtant inscrit dans le nouveau contrat de l'époque. Hein. Bon, voilà. Et puis, je crois que Josette l'a dit, c'est important. Hein, on avait obtenu donc, la mise en place d'une progressivité de l'abonnement, donc une baisse de l'abonnement, hein, ce qui est quand même un soulagement non négligeable, comment dire, pour les usagers, hein, surtout pour les usagers modestes. Voilà. Hein, et il faut aussi souligner quand même, que on est toujours dans cette situation où pour la plupart des investissements, hein, la collectivité donc délègue à du Grand Lyon, hein, la clé de Villa, elle emprunte à la maison à des taux élevés dans la collectivité paie les intérêts. Josette peut peut-être apporter des précisions
oui,
là-dessus.
Oui, nous avons essayé d'y voir clair dans nos réunions. Et ce qu'il apparaît, ce que nous pouvons expliquer, c'est que la filiale Eau du Grand Lyon doit donc participer aussi à l'entretien du réseau. Pour participer à l'entretien du réseau, si elle a besoin d'investissement, elle emprunte à Veolia. Elle emprunte à sa maison mère, puisque c'est une filiale de Veolia.
C'est une obligation d'emprunter, parce que je suis sûre qu'on peut emprunter à beaucoup moins ailleurs.
Eh bien voilà, elle emprunte... Et nous supposons à 3 ou 4%, alors que si nous étions en régie publique, la régie publique pourrait emprunter sur les taux actuels qui sont très proches de zéro, ou à peine. Hein. Et donc, nous pensons que là, nous devons mettre l'observation là-dessus.
Et le remboursement des emprunts est impacté, bien sûr.
Le remboursement des emprunts retourne à Veolia, ne nous gênons pas, et c'est l'usager, et c'est dans la facture de l'usager, hein, les usagers.
Là, on est déjà dans vos mobilisations actuelles, c'est-à-dire un retour à la régie. Mais ce qu'on peut déjà souligner, il me semble, hein, pour la clarté des propos, c'est que cette première mobilisation dont vous parliez avait apporté déjà des éléments, avait obligé finalement à la fois le commanditaire, c'est-à-dire la collectivité publique, et Veolia, à rendre plus transparent quand même leur gestion.
C'est ça. Et maintenant, nous y regardons encore. Voilà, nous voulons encore regarder.
Et ça continue.
Oui, ça continue.
Alors, il faut dire qu'actuellement, bon, la métropole a quand même une partie hein, qui lui revient. Hein, c'est le parti, bon, la partie assainissement. Voilà. Par contre, Veolia.
Elle a gardé
tout le reste. Hein. Bon, il faut quand même préciser aux auditeurs que bon, Veolia, évidemment, entreprise privée, hein, rémunère des actionnaires. Oui. Hein, et on estime à peu près, hein, moi j'ai pas le chiffre exact, à peu près que ça peut représenter entre 11 et 13% des recettes.
Qui devraient être réinvesties ou servir à baisser le prix pour les consommateurs.
Qui, dans le cadre d'une régie des services publics, évidemment, serait immédiatement réinvestie hein, dans les travaux d'assainissement et autres. Et puis aussi... pourrait intervenir dans la baisse aussi du prix de l'eau.
Tout à fait.
Donc pour revenir un peu sur vos objectifs globalement, enfin l'objectif final, ce serait arriver à une régie publique pour qu'effectivement ces questions d'emprunt, ces questions de coûts aussi, de rémunération des actionnaires n'existent pas. Donc avec, j'imagine, tant des questions économiques par rapport aux consommateurs que des questions aussi de maîtrise de l'outil par la collectivité et par les citoyens. Aussi une question... de participation de tous et également, je pense qu'on y reviendra sur des enjeux aussi d'environnement et de qualité.
Alors pour dire à propos de l'assainissement, parce que tu as évoqué l'assainissement, il était toujours en régie publique avant comme maintenant, parce que la métropole de Lyon a toujours dit une part au public, une part au privé, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec régie publique de l'assainissement qui n'intéresse pas Veolia et qui est prise en main par la collectivité. Résultat, elle fonctionne bien et c'est un des prix les plus bas de France.
On avait alors, dit, hein? alors que jusque dans les années 2011-2012, le prix de l'eau de Lyon était un des plus élevés
comme de l'Hexagone. Hein. C'est ça. Ça avait été rectifié un peu, ce prix a été rectifié après l'action de 2012 à 2015. Et c'est pourquoi cette année, eh bien, il faut mettre le paquet, hein, parce qu'on a, bon, on a des raisons hein, là, de pouvoir... investir et puis décider les Lyonnais. Mais les Lyonnais, il faut qu'ils soient informés. Hein, voilà.
Et est-ce qu'on connaît d'autres collectivités qui sont revenues en régie publique?
Oui, il y a d'autres collectivités. Ouais. Par exemple, je recherche dans mes notes, parce que je ne connais pas tout.
Alors, le pays de Gex, le pays de Gex en particulier, a pu revenir en régie publique, mais grâce aussi à la volonté d'un ou de plusieurs élus. Et là, à Lyon, nous demandons aussi la volonté des élus, la métropole. Sinon, naturellement, où en sommes-nous de la majorité? Voilà.
Ah, oui. Et justement, dans les modes d'action, donc, vous évoquiez l'information déjà des citoyens, des Lyonnais. Et est-ce que vous arrivez à avoir des contacts ou arriver à faire pression sur justement les décideurs élus?
Je ne sais pas si on parle tout de suite de la campagne qui est
nous
engagée,
au début.
Si on en parle maintenant. Mais on peut très très bien. Donc notre collectif a déjà fait une conférence de presse. Notamment, on peut signaler, j'ai pas d'action, mais quand même un article assez intéressant dans le Progrès.
Oui.
Qui situe assez bien, qui se titre « Un collectif milite pour que l'eau reste un bien public ». Bon, l'article est très ramassé, mais je crois qu'il pose bien la problématique de ce pourquoi on se mobilise et ce pourquoi on engage une grande campagne. Donc, on pourra peut-être parler un peu plus loin de comment on compte le faire.
Oui.
Voilà. Alors, maintenant, on peut peut-être d'ores et déjà envisager quels sont les enjeux qu'on a devant nous, en espérant que ces enjeux vont éclairer le choix des élus, sachant que, pour bien resituer les choses, donc, la délégation de services publics doit prendre fin, fin 2011.
2021.
De 2021, excusez-moi, fin 2021, voilà.
Non, donc, c'est 2023. C'est 2023. Ça court jusqu'en 2023. Oui, et nous sommes en train de préparer justement ces changements nécessaires. Les changements qui.
Des orientations de méthode devaient être prises par la métropole à la fin 2019.
Parce que ça court de 2015 à 2023, 8 ans. Voilà. C'était une période de 8 ans de gestion. Et maintenant, justement, la métropole est en discussion déjà pour préparer 2023.
Et nous, on demande que toute cette discussion soit reportée, puisqu'il va y avoir les échéances électorales de 2020, où la métropole, pour la première fois, tous les citoyens vont pouvoir élire leurs représentants, les métropolitains.
Conseillers métropolitains.
Donc, on demande que cette discussion, que ce débat à la métropole soit reporté, de manière que aussi il y a une grande concertation puisse se mettre en place avec les citoyens et leurs organisations représentatives. D'ici là. Et pour ce faire, une demande de rencontre est en train d'être adressée à M. Krimmelfeld, le président actuel de la métropole.
Parce que la métropole, de son côté, alors que nous préparons aussi notre campagne retour en régie publique, la métropole avait déjà des réunions à elle. Et peut-être pour prendre déjà des décisions sur régie, je ne sais quoi.
Ce serait pas forcément remis en cause après les élections.
Qui sait, voilà.
Et donc votre campagne, c'est aussi lié au fait qu'il y a une campagne électorale qui...
Oui et non.
Qui s'annonce.
Certes, bien sûr.
Permet de poser le débat. On va voir les candidats.
Que le débat sur la gestion de l'eau, évidemment, fasse pleinement partie de la campagne électorale.
Voilà.
Des débats qu'il y aura un peu de partout, bien sûr.
Mais dans les municipales et au niveau de la métropole, parce qu'il faut bien insister auprès des Lyonnais, il y aura aussi un vote pour élire les conseillers métropolitains. Eh bien, beaucoup. J'entendais cette réflexion, ils vont élire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce que beaucoup ne connaissent pas bien la métropole, les fonctionnements de la métropole, mais on va leur demander quand même d'élire des conseillers métropolitains. C'est délicat. Mais...
Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que au bien commun, essaye de faire comprendre à tout le monde que la problématique de l'eau, c'est une problématique très globale, hein, qui ne se concerne pas uniquement que le coût de l'eau, mais aussi il faut se soucier de la ressource. La ressource en eau, la préserver avec la problématique climatique.
On a vu cet été des collectivités qui avaient des pénuries d'eau.
Voilà. Donc il y a une baisse de ressources.
Et Lyon se pose des questions.
Bon, aussi la gestion des cours d'eau. Mm-hmm. La biodiversité, l'environnement, on essaie de replacer ce débat dans tout cet ensemble-là.
Oui, parce que ça concerne la production.
C'est indissociable,
bien sûr. La production de l'eau, voilà. Et là, en même temps, la qualité de l'eau que nous avons aussi au robinet après. Hein. Mm-hmm.
Je vous proposerai bien une petite pause musicale. Je vais lancer le morceau de musique choisi par Roger. Tu nous expliqueras pour toi. Tu as choisi tout à l'heure.
Pourquoi pas?
Oui.
Certains auditeurs auront peut-être reconnu cette charmante pièce de Claude Debussy, Jardin sous la pluie, que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, ils auront reconnu peut-être aussi deux thèmes populaires que Debussy s'est inspiré. Nous n'irons plus au bois, les lilas sont coupés. Voilà. Et que j'affectionne particulièrement parce qu'elle fut jouée par une de mes filles il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et puis le thème de l'eau, évidemment, est complètement dedans.
Et donc, on revient donc avec nos invités, Roger et Josette, de Eau Bien Commun, sur cette question donc de l'eau, de la bataille pour engager pour que l'eau redevienne en régie publique dans la métropole de Lyon. Donc revenir effectivement sur les enjeux que porte cette question et que porte donc au bien commun.
Oui. Métropole, au bien commun, métropole. Tu dis bien.
Donc les enjeux sont importants. Ah bon, on peut les citer rapidement. Bien évidemment, nous demandons qu'il y ait vraiment une sécurisation de la ressource et une prospective pour la production d'eau potable, compte tenu du réchauffement climatique, comme on le disait tout à l'heure, des sécheresses, de la baisse des nappes phréatiques. On sait que 88% de l'eau potable utilisée par les Lyonnais vient des champs captants de Crépieux-Charmy, donc du Rhône. On constate bien sûr une baisse générale. On constate quand même une baisse générale de la consommation. Il y a peut-être une meilleure recherche des fuites, peut-être une baisse de la consommation des utilisateurs, peut-être que les campagnes médiatiques jouent un jeu, mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. On demande aussi qu'il y ait un gros effort fait pour un bon état du réseau, qui est absolument indispensable pour éviter les fuites, les pertes d'eau, les ruptures qui alourdissent les difficultés d'approvisionnement.
Et puis les fuites et les pertes, des choses qui sont payées d'une certaine façon par le consommateur au final.
Qui sont payées par les
consommateurs. C'est environ 15%.
Oui,
c'est environ 15%.
Donc là, il y a un effort.
Ça demeure 15% de fuites.
Et là, par exemple, est-ce que Veolia a des objectifs de...
Il doit travailler là-dessus. Il a dit qu'il avait du matériel très performant pour déceler les fuites. Mais après, il faut réparer aussi, n'est-ce pas? Il faut intervenir et réparer. Et le matériel très performant, bon, voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'ils le disent.
Il faut aussi que les élus se préoccupent de la qualité de l'eau. Bon, elle est bonne. Elle est qualifiée de bonne, mais les champs captants sont encore en agriculture, en agri-raisonnée, pas en bio,
voilà,
pour l'instant.
Voilà. Donc, et ça peut nous préoccuper.
Il y a aussi des risques de pollution nouvelle, ça on le sait. Elles sont toujours possibles au long du réseau. Les plastiques, les perturbateurs endocriniens, qui ne sont pas encore pris en compte dans l'analyse de l'eau. Donc ça aussi, il faudra qu'il y ait un réel progrès dans ce domaine.
Et que là, ça rejoint des politiques qui sont à la main de la métropole.
Bien sûr.
Voilà, qui ne sont pas forcément liées, enfin, qu'ils estiment peut-être pas tout à fait liées à la production et la distribution de l'eau, mais qui sont des compétences de la métropole.
C'est tout à fait dans les compétences de la métropole. Voilà. Donc, la métropole, oui, comme on le dit, qui s'occupe des politiques environnementales, là, les trams verts, les trams bleus, ce qui est aussi du domaine agricole. Bon, et nous, on pense que la métropole pourrait créer un service de l'eau qui associe la gestion de la production, la distribution, l'assainissement de l'eau potable, les politiques au environnement, aux biodiversités, en collaboration avec les services de l'État et l'Agence nationale de l'eau. C'est important. Ça n'est pas le cas actuellement. Et ce manque de... Il y a une synergie très très importante à mettre en place de ce point de vue-là. Et puis, bien sûr, comme on l'a déjà à plusieurs reprises, il faut une très nette amélioration de l'information, de la connaissance et de l'implication des citoyens par rapport à leurs ressources, par rapport aux économies, par rapport aux enjeux. Bon, donc, les enjeux sociaux et environnementaux de clarification aussi. On utilise souvent la formule « l'eau paye l'eau ». C'est une régie donc financière. Il faut donc que le prix payé par les usagers permette de financer les investissements dans l'eau, l'entretien, la maintenance, donc par les actionnaires.
C'est pour ça que nous demandons le retour en régie publique. Voilà.
Donc on demande...
Et la différence.
On demande une tarification sociale, des premiers mètres cubes gratuits par an, une tarification progressive pour faire payer les gros consommateurs, bon, à l'exception des hôpitaux et des structures sanitaires publiques, bien évidemment.
Oui, parce que c'est vrai, quand on parle consommation d'eau et on parle économie, on a l'impression que c'est uniquement chaque ménage dans son logement qui doit fermer le robinet quand il se brosse les dents, mais les plus gros consommateurs d'eau, c'est surtout plutôt les industriels,
les agriculteurs.
Et les agriculteurs,
c'est vrai que les structures sociales, médicales et sociales, par contre, elles, bon, doivent pouvoir bénéficier quand même d'un prix moyen de l'eau. Voilà, en gros, quels sont les enjeux qui viennent pour l'année et où déjà, comme vous le disiez, on voit tout le rôle fondamental de la puissance publique la métropole, qui d'ailleurs, bon, techniquement, aura des moyens. Il y a des compétences qui sont très très fortes. Hein. On revient l'assainissement, donc pour l'instant qu'elle assume, on dit, bon, se fait de façon satisfaisante. Avec les salariés, donc il n'y a pas de raison qu'on estime qu'un organisme privé fera un travail de meilleure qualité. Ce n'est pas vrai.
Et pour moins cher, encore mieux.
Et pour moins cher.
D'accord, donc le premier enjeu, c'est quand même de rappeler son rôle à la puissance publique.
Absolument.
Et le rappeler aussi aux citoyens pour qu'ils qu'ils fassent également pression et qu'ils soient sensibilisés. D'ailleurs, je regardais le site Au Bien Commun, il y a pas mal de choses, genre expertise partagée, centre de ressources, des fiches pratiques.
Oui. Ben, on peut déjà donner l'intitulé du site. Hein. Donc, effectivement, nous, on invite les auditeurs à aller voir, à visiter ce site très souvent. Donc, www.au-biencommun-aura.fr. Et là, ce site, il est actualisé et les auditeurs pourront trouver de nombreux dossiers, hein, de nombreuses informations sur la problématique de l'eau, mais comme je le disais, vraiment au sens très très large du terme, hein, sur la biodiversité, sur l'environnement, et toutes les problématiques auxquelles on va être de plus en plus confronté avec le changement climatique.
Et par exemple, on parlait des agriculteurs, vous évoquez notamment quelle agriculture sur les champs captants, et c'est important. Il y a des structures d'agriculteurs dans le collectif, où vous les rencontrez, vous les sensibilisez.
Ce serait bien de les réveiller.
Pas pour le moment.
Ce serait bien de les réveiller.
C'est peut-être effectivement une investigation à faire auprès des agriculteurs. Ben, on pense qu'un certain nombre d'organisations représentatives des agriculteurs seraient intéressées. Hein. Mais ça, je crois que
il faudrait peut-être joindre la Confédération paysanne.
La Confédération paysanne.
Parce que là, c'est l'agriculture paysanne.
Pour ce qu'on la connaît, est quand même très très sensible.
Voilà. C'est à nous de voir si elle a le temps de se joindre.
Je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore eu le temps et l'énergie de faire, hein, mais ça sera nécessaire sans doute.
Et donc on évoquait tout à l'heure comment rentrer dans la discussion et s'il y a des discussions qui sont déjà en cours par rapport à la fin de la délégation, donc vous avez quels moyens ? Vous évoquiez la campagne, il y a des structures aussi de dialogue et de concertation sur le sujet.
Josette, voilà, pourra évoquer que le rôle de la CCSPL, on va décliner ce sigle, hein, et comment ça se passe ?
Bon, à la commission consultative des services publics, la métropole est chargée de rendre compte de la gestion de la gestion de l'eau en général. Donc ce sont des techniciens, des spécialistes de la gestion de l'eau, Veolia, etc., qui viennent et qui exposent à des associations. Nous sommes une trentaine d'associations, et à cette commission consultative il y a à peu près autant d'élus, et viennent des techniciens des différents alors il y a les délégataires et les sociétés qui ont eu des délégations de services publics. Et pour l'eau, ce sont des techniciens de Veolia qui viennent rendre compte de leur travail et du bon fonctionnement de toute cette délégation de services publics. Que la métropole juge un service public et que nous disons dédié au privé. Donc un service privé, il faut le dire aussi. Voilà. Mais là, l'avis de la métropole n'est pas le même, mais nous tenons bon.
Et cette commission, c'est une commission obligatoire.
Alors, oui, c'est une commission qui a été... elle est obligatoire, et la métropole s'honore du fait qu'elle a une bonne participation des associations à cette commission de consultation. En réalité, quand nous y sommes, nous constatons que nous recevons des informations, hein, n'est-ce pas, et que nous les prenons à peu près, nous devons prendre ce qui nous est dit. Alors, non, il y a des associations plus pointues qui peuvent poser des questions. En général, elles posent leurs questions, et puis, voilà, hein, c'est... Après, ce sont les élus qui font les réflexions ou qui font qui mènent le travail entre eux. Hein. Souvent, c'est comme ça. Hein. En ce qui concerne l'eau, eh bien, nous allons faire attention, en particulier maintenant, justement, à ce que va devenir la production de l'eau. Parce que il se peut que la métropole veuille créer une régie publique à autonomie financière. Elle a déjà parlé de cela en ce qui concerne des chaufferies, voyez. Et ce qui se passe dans ce cas-là, je me le suis fait expliquer par exemple Jean-Louis Linoussier que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est plus vieux à la CCSPL que nous et qui peut nous aider à comprendre, mais il dit dans la régie à autonomie financière, on ne consulte pas les usagers. Et justement, c'est une question qui a été posée la dernière fois, lorsque nous avions un vote concernant régie à autonomie financière pour une chaufferie, eh bien, il a été répondu non, la présence des usagers n'est pas envisagée. Et ça nous gêne. Et cela a été dit encore pour une autre structure. Donc, on voit que la métropole de Lyon veut se passer de ceux qui payent. Hein ? Voilà.
On a pu constater que la question de l'eau devait être mise à l'ordre du jour de la dernière réunion plénière de la CCSPL. Elle a été retirée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que, bon, on ne sait pas exactement, mais bon, est-ce que l'actuel conseil métropolitain doit préférer, bon, sentant qu'il y avait une mobilisation qui était en train de monter, bon, préférer, bon, ne pas traiter un petit peu à chaud cette question.
Oui. Voilà. Bon, je dirais que ça a dû jouer, ceci a dû jouer, et autrement, ce que disent les personnes responsables à la métropole, c'est le sujet n'est pas au point encore. Bon, le sujet n'est pas au point, donc on l'enlève de la session. Voilà.
De toute façon, ça reste une commission consultative, donc où vous, effectivement, comme tu le disais, vous avez des informations, mais qui n'a pas de pouvoir décisionnaire.
Non, on n'a pas de pouvoir décisionnaire. Non.
Mais elle est obligatoire. Elle fait partie des statuts de la métropole.
Voilà. Et maintenant, nous y faisons attention, nous avons dû faire attention, avec l'exemple des cantines de collège. Alors, ce n'est pas le sujet de l'eau, mais les cantines de collège, tout de même, elles arrivent, 44 cantines arrivent sous la responsabilité de la métropole, parce qu'avant, elles étaient sous la responsabilité du conseil général. On passe, la gestion de ces cantines passe à la métropole. Et tout de suite, nous entendons, il va falloir les mettre en délégation de service public. Oh, alors, grand étonnement. Et on nous fait voter. Ah, ben alors, il y a des mains qui se lèvent, sauf 9 quand même. Parce que nous avions dit, ben, les agents, il faut voir s'ils sont d'accord pour passer au privé, hein, etc. Oh, mais la métropole s'occupera d'eux, puis ceux qui ne veulent pas, on s'en occupera, c'est ça ce qu'on a entendu. Et il y a eu après un groupe de travail des cantines. J'en parle maintenant parce que quand même, ça fait réfléchir. Ce groupe de travail, au lieu, en juin, nous votions. En septembre, il y avait un groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, nous apprenons des nouvelles de 5 DSP, délégations de services publics. Sur les 5, il y en avait 3 qui étaient retoquées, qui avaient des amendes. Ah, et ma réflexion a été celle-ci au cours d'une réunion. Si nous avions su les informations de ce groupe de travail avant de voter au mois de juin, nous n'aurions peut-être pas voté de la même façon. Bon, ouais. Oui, alors, depuis, la métropole fait attention, et c'est peut-être pour ça aussi que la question de l'eau a été reportée.
Pour ajouter, tu pourras préciser, quand d'aucuns prétendent qu'une délégation de service public cantine arrive à faire un coût de repas moins cher pour les familles, il se trouve que c'est faux.
Et c'est faux, parce que, avec un exemple particulier entendu au cours d'une marche du dimanche, là, on marchait et on parlait des cantines, eh bien, la responsable de cantine d'un collège a dit, mais nos prix, ils sont jusqu'à 3 euros et quelques, et la moyenne des cantines privées, de DSP, c'était 4 et quelques. Bien sûr, moins cher que les cantines publiques, on comprend bien, à 5 euros et quelques, en moyenne. Mais aucun compte n'avait été mis sous nos yeux. Aucun chiffre de compte. Bon, alors, s'il faut croire comme à l'église, ça ne va plus. Voilà. ça ne l'a plus.
Donc si aucune évaluation, effectivement, n'a été faite de comparaison entre les différentes solutions.
Et on retrouve ça aussi, par exemple, sur la question des ordures ménagères, enfin, tout un tas de domaines qui sont sous la compétence, bien évidemment, de la métropole, hein, qui, comme disait Josette, a récupéré beaucoup de compétences, que ce soit du Conseil général ou même des compétences municipales, comme on le sait.
La métropole, en fait, a le statut, a les compétences du département sur l'ensemble de son territoire.
Et pour ce qu'elle qui a fait pris, que... pour ce qu'elle a pris du département.
Non, elle a tout. Elle a tout pris.
Elle a la compétence d'un département sur l'ensemble de son territoire. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire que finalement, nous avons quasiment deux départements. Nous avons le département de Rhône qui a toujours ses compétences sur l'ensemble de son territoire hors métropole. Mais la métropole a bien, c'est un statut particulier. Et la métropole, donc, a l'ensemble des compétences d'un département sur son territoire.
Ah,
d'où
oui.
la compétence collège.
Et par exemple, la compétence également sur le RSA. Et donc, en dehors de cette commission consultative, les moyens de se faire entendre, on évoquait la campagne.
Oui, voilà.
On peut dire, oui, tout à l'heure, vous demandiez s'il y avait des exemples de retour en régie publique. Ça y est, je les ai sous les yeux. Effectivement, le retour en à Paris, c'est pas rien, oui, Montpellier, aussi. Nice... Hein, voilà, où on voit déjà que ce retour à régie publique commence à produire des effets intéressants, hein, à la fois des effets techniques et pratiques pour la maintenance, etc., et aussi sur le coût de l'eau. Bah, ce que je pouvais dire, que on pourrait dire que, insister sur le fait que pour nous, la métropole de Lyon, elle a les compétences et les moyens de sa gestion publique et citoyenne. Il faut dire que le passage en régie n'occasionnera aucune perte d'emploi, parce qu'on nous interroge souvent là-dessus aussi. Au contraire, la métropole peut s'appuyer sur un personnel qui est formé, qui est compétent sous statut, et qui est tout à fait à même de réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Le passage en régie publique est complètement indolore sur le patrimoine, car les infrastructures appartiennent à la collectivité.
Ça, c'est important de le rappeler.
Donc là-dessus, il n'y a strictement aucun problème.
C'est important de le rappeler parce qu'on peut penser que lors des négociations de la fin de la délégation, Veolia va essayer de faire des progressions, d'une façon ou d'une autre, et qu'au moins sur cette question des infrastructures... Effectivement, elles appartiennent déjà à la collectivité.
Elles sont à la collectivité.
Oui, comme disait Josette tout à l'heure, la métropole qui a délégué donc la gestion du Grand Lyon, on voit que ça se traduit par des taux d'intérêt supérieurs au prix du marché, hein, ce que disait Josette, c'est vrai. Donc le retour en régie publique, on estime qu'il permettra l'étalement des investissements sur 40 ans, à taux réduit, de 0 au maximum 2% de taux d'intérêt, par les prêts bancaires, avec la Caisse des dépôts et consignations notamment, dont c'est le rôle. Il permettra également de renforcer les budgets consacrés à la protection de la ressource, des réseaux, tout en maîtrisant le prix de l'eau. Ça, je crois que c'est important de le souligner. La régie publique aussi, je crois, on peut dire, donnera à la métropole une meilleure maîtrise du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Et aussi des outils supplémentaires pour mettre en cohérence sa politique d'acquisition foncière et de préservation des champs captants. Installer des agriculteurs bio, on en vient tout à l'heure, mener une politique d'urbanisme compatible avec le maintien de la qualité de la ressource. Actuellement, il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Cela coûtera beaucoup moins cher en dépollution si les eaux sont déjà mieux contrôlées. Donc je crois que c'est important. On peut dire, pour nous, c'est les arguments essentiels qu'on va développer auprès de la métropole, et on espère que son président aura la bienséance de nous écouter et de nous accueillir là-dessus.
Et de vous accueillir, vous comptez justement dans cette campagne, de quelle façon
On lui a
demandé
un rendez-vous. Le texte de la lettre, d'ailleurs, sera sur le site. Les auditeurs pourront le consulter. On espère bien, comment dire, être reçu, être entendu pour cette question, qui est quand même une question essentielle pour l'ensemble des usagers.
Ceci dit, on sait que la métropole a une position de longue date, et je pense bien que le président Kimmelfeld reste dans cette position, une part pour le public, une part pour le privé. Donc, la lutte est entre nos mains. Hein. Et maintenant, eh bien, cela va être la campagne, une campagne de signature de pétitions, des pétitions papier, des pétitions électroniques, et aux citoyens de les trouver et de les signer. Ce seront des cartes pétitions également. Nous allons avoir aussi des conférences, conférences publiques qui vont parler de notre question de l'eau.
Il y a une première réunion publique dont on vient de déterminer la date
le 24,
plus tard qu'hier.
Oui, c'est ça.
Donc, tout le monde.
Le 24 octobre.
Le grand public.
À la Bourse du Travail.
Tous les gens qui veulent pourront venir le lundi 24 octobre à 18h à la Bourse du Travail de Lyon, où là, on débattra, on discutera, les gens pourront poser des questions. Certes, il y a des aspects qui sont quelquefois un peu compliqués à comprendre, mais on essaiera de donner les explications que l'on peut. Et je soutiens Josette, il faut absolument que les citoyens s'emparent de cette question, sans quoi... alors on peut craindre que ça ne bouge pas beaucoup.
Et cette pétition, elle a une échéance ?
Non, pour l'instant, on n'a pas fixé d'échéance précise.
Elle va rentrer dans la campagne électorale, forcément.
Évidemment.
Le sujet va entrer dans la campagne électorale, puisque parallèlement, nous demandons également, ou du moins, il y aura aussi une réflexion sur le service public des transports. Parce que s'il y a un syndicat pratiquement public, le Citral, il y a aussi une société privée, dont on ne sait pas toujours le nom, Keolis, la société privée, elle brasse l'argent des usagers.
C'est le même phénomène.
Même phénomène qu'avec l'eau. Alors, nous disons aussi, retour des transports en régie publique. Voilà.
J'ajouterais pour les transports, pense que vous avez venu certainement en parler ici à Radio Canu, il y a une mobilisation bien plus importante, même sur la gratuité des transports publics.
Également, et une réflexion dans ce sens.
On a eu dernièrement connaissance de documents émanant d'un certain nombre de municipalités où la gratuité du service public non seulement n'a pas affaibli le service public, mais au contraire, avec évidemment une réorientation des finances publiques territoriales, c'est sûr et certain. Il y a des choix à faire. Oui. Donc, a permis de nouveaux investissements en termes de transport. Donc on dirait que ce plan du schéma, les choses sont très, 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 très liées. On a affaire vraiment à des phénomènes très, très, très semblables.
Et donc, cette campagne, pour réussir à la faire, la diffuser, à ce qu'elle fasse des petits... Alors, ce que j'oublie pas, c'est ce que vous avez dit au début, par rapport à qui est dans le collectif, ça veut dire aussi les associations qui ont leur réseau. Donc, les syndicats sont aussi... Un relais pour faire signer cette pétition.
Oui.
Et puis après, effectivement, tout le monde, même dans son entourage, sur son lieu de travail... Enfin, le sujet de l'eau me semble être un sujet qui touche, comme les transports, c'est du quotidien, il touche tout le monde. La ressource, l'eau c'est la vie, c'est une ressource essentielle. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu disais l'eau paye l'eau. En fait, l'eau, on ne la paye pas. On paye tout le service qui est associé à l'eau. Mais l'eau en tant que telle, elle n'a pas de coût.
Elle n'a pas de coût.
Je pense que c'est vraiment important à rappeler. Et donc, à partir du moment où elle n'a pas de coût, autant que ce ne soit pas le privé qui s'en occupe.
Oui, alors en ce qui concerne la campagne, il faut signaler on va tirer à 5000 exemplaires donc le manifeste de 4 pages qui est au point maintenant et qui déjà apporte un certain nombre d'informations assez précises donc au grand public sur pourquoi une gestion de l'eau de la métropole citoyenne et publique. Donc il sera diffusé de différentes manières, relayé par l'ensemble de nos réseaux. Parce que il y a quand même un réseau maintenant extrêmement important, qui ne concerne pas uniquement les organisations qui sont dans le collectif ou qui le soutiennent, mais ça va largement au-delà. Donc on compte beaucoup aussi sur cette diffusion très très large auprès du public.
Et donc vous évoquez la conférence du 24 octobre, il y a l'idée également de la multiplier dans plusieurs lieux.
On avait défini le principe d'une action par mois.
Voilà.
On commence par celle du 24 octobre. Oui. Je pense que on va travailler pour aussi d'autres initiatives qu'on communiquera le plus largement possible.
Oui. D'ailleurs, sous des formes qui peuvent être différentes d'une conférence.
Sans doute, oui, effectivement. Il ne faut pas s'interdire de prendre des formes un petit peu différentes, de telle manière à toucher tous les publics. Tous les gens ne sont pas peut-être enclins à venir à une conférence, à un débat. Il peut y avoir d'autres formes. À nous d'être imaginatifs, mais je crois qu'on manque pas d'idées au collectif.
D'ailleurs, comme que vous parliez du grand village de l'eau,
voilà.
Alors, le grand village de l'eau, donc, qui aura lieu début février 2020, donc, où il y aura tout un ensemble de stands. Donc, toutes les organisations qui sont dans cette démarche, qui sont avec nous, qui nous soutiennent, auront la possibilité de tenir un stand avec des diverses informations. Je sais qu'ATAC sera présent, bien évidemment, comme d'habitude, la CNL également, et d'autres, bien d'autres. Et là, effectivement, on aura un ensemble de débats, des expositions, bien sûr, des vidéos, un ensemble de débats avec non seulement les représentants des associations, mais aussi des élus. Comme ça avait été le cas il y a 2 ans, on avait eu des élus qui étaient venus aussi débattre avec le public sur cette question.
Et avec les groupes donc, de Auvergne-Rhône-Alpes qui sont aussi au travail dans leur... dans leur coin de la grande région et qui sont au travail sur la question de l'eau. Donc il y aura beaucoup d'amis de l'Ain, en particulier dans l'Ain.
L'Isère,
peut-être Tarare également viendra témoigner aussi de son travail.
On parlait de l'Isère par exemple, une ville comme Grenoble est en régie publique ou pas?
Grenoble, est en public.
Depuis longtemps.
On pense qu'effectivement, ce sera intéressant qu'ils puissent parler de cette régie publique, comment ils sont parvenus, comment dire à ce retour, et comment cette régie publique fonctionne. Comment elle est gérée, comment les citoyens et leurs associations sont inclus dans cette gestion, quels sont les comptes rendus, quelle est l'information, bref, toutes les questions qui nous semblent sont primordiales pour les usagers.
Et c'est vrai que sur ce qu'on disait sur cette information, même la commission consultative, où il semble que vous ayez des bilans, en fait, on a peu de retours sur comment tout ça se passe.
Voilà. Donc ce serait nous qui devrions aussi prendre du temps peut-être pour apporter un peu dans ce domaine. On va y penser, mais...
Il faut dire que c'est un travail,
tout ce que nous
c'est
faisons.
Un dossier vaste, lourd. On peut dire que le collectif fonctionne à peu près avec 8 ou 10 personnes en permanence. C'est bien, mais c'est trop peu. C'est trop peu et je crois qu'on a besoin aussi de voir venir des forces nouvelles, surtout avec ce qui se prépare, avec toute l'action qu'on entend bien mener.
Donc c'est aussi le but de cette émission, c'est non seulement d'informer les auditeurs donc, sur des luttes, des initiatives, des alternatives, mais également de ceux qui ont envie effectivement de vous rejoindre, de s'investir d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être aussi pour avoir des idées sur des événements, des actions à mener.
On se réunit assez régulièrement. Bon, il n'y a pas un calendrier ritualisé, mais c'est selon les besoins. Mmh. On se réunit essentiellement à la Maison des Passages, qui est dans Lyon-Lyon, là-bas à Saint-Georges, qui nous accueille. Pour nous, c'est un soutien aussi logistique extrêmement important. Et les gens qui... Les réunions sont ouvertes, n'importe qui ne peut
venir. Mais nous avons aussi pensé à la Bourse du Travail, pour élargir encore vraiment la
participation. Mais les personnes qui veulent venir à nos réunions de travail, si je puis dire, sont les bienvenues et peuvent se faire expliquer toute cette question et comment on fonctionne.
Et par exemple, on trouve l'agenda de ces réunions sur votre site?
Non, on ne peut pas dire qu'on trouve l'agenda, puisqu'on a des réunions qui peuvent se décider quand même dans un laps de temps très 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 court en fonction des besoins et des opportunités.
Mais sur le site, on peut trouver un contact
Par contre, sur le site, on trouve un contact très facilement.
Donc on rappellera dans l'émission, donc l'émission est podcastable, on le rappelle, sur le site d'ATAC et le site de Radio Canu, et on mettra... toutes les informations, le site sur lequel, comme je le disais, on trouve également beaucoup d'informations, des fiches, des ressources, donc qui permettent de savoir de quoi on parle, un peu peur d'y aller pour sans savoir. Il y a beaucoup de choses intéressantes et le manifeste de la campagne est très très bien parce qu'en quatre pages, il explique très simplement les choses.
Alors en ce qui concerne le collectif au bien commun, donc on a une adresse courriel. Hein, donc qu'on peut donner. Alors, en attaché au bien commun Lyon, en minuscule, donc @protonmail.com. Proton, protonmail.com. Donc, ça permet à tout le monde de nous contacter. Hein, et on répond systématiquement aux gens. Effectivement, ils nous disent être intéressés à venir d'abord voir à une réunion, ben à ce moment-là, hein, on pourra leur dire à quel moment on se retrouve à la Maison des Passages.
Et j'imagine que la pétition également sera disponible sur le
absolument,
site.
Absolument, complètement, oui, tout à fait.
Eh bien, merci à tous les deux.
Hein, ben, merci à vous de votre accueil, c'était très, très intéressant. Ouais. Et puis, à très bientôt, on est à votre disposition pour venir reparler dans quelques temps.
Oui, et puis on suit aussi, quand la pétition sortira, on pourra continuer à annoncer et à suivre les actions. Voilà. Donc, et rappeler, parce que c'est pas tout de suite, donc on ne manquera pas de le rappeler. Donc la réunion, la conférence du 24 octobre.
Réunion publique, hein, le 24 octobre.
Oui, à la Bourse du Travail.
À la Bourse du Travail. Donc est invité qui veut. La porte sera grande ouverte. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Domitian, here's the promise. Down, Domitian!
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.